Nobel de la paix au dissident chinois Liu Xiaobo est fondé sur les droits de l'homme et ce n'est plus que le président du comité basé à Oslo en Norvège. En l'absence du dissident emprisonné en Chine et également de ses proches, le prix ne sera pas remis demain au cours de la cérémonie officielle. Pour la première fois depuis 1936, Liu Xiaobo sera représenté par une chaise vide.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Sandra Freeman.
Ce soir, direction le Nord, pas le Grand Nord, construit sur le bassin minier Notre Nord qui tente sans cesse d'échapper à ses clichés. Henri Cartier-Bresson a su photographier le Nord autrement. Quel impact la culture minière a eu sur la population et sur la collectivité encore aujourd'hui? C'est ce soir à 21h.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Après l'intervention de Serge Halimi concernant la sécurité sociale, il est bon de relire l'ancien ministre communiste du Travail, Ambroise Croizat. Ainsi, le 8 août 1946, à l'Assemblée nationale, il déclare « Notre souci est de confier à la masse des travailleurs la direction de leur propre institution, de manière que la sécurité sociale soit le fait non d'une tutelle paternaliste ou étatiste, mais de l'effort conscient des bénéficiaires eux-mêmes. » Régis de Nîmes.
Salut Daniel et toute l'équipe. Un petit message pour les AMG d'Amer dans les Hautes-Pyrénées et les environs pour dire que notre repère ouvrira ses portes ce vendredi 10 décembre avec la projection du film « Mourir, plutôt crever » sur Ciné. Projection vers 21h, mais avant, bien sûr, accueil et casse-croûte assurés, comme d'habitude, à partir de 20h à la salle des fêtes, puisqu'il fait un petit peu froid. C'est juste à côté du café du village.
Il est 5h42. Dans quelques instants, la police va venir déloger à Nice 115 personnes, dont 49 enfants, demandeurs d'asile en situation régulière, qui ne peuvent pas obtenir une décision de justice obligeant le préfet des Alpes-Maritimes à les loger. Et ils sont donc actuellement logés dans un immeuble qui appartient au CHU de la ville de Nice et qui a demandé de faire respecter le droit de propriété et donc que de les mettre à la rue en plein hiver. Les 49 enfants sont scolarisés à l'école de la rue Aubert à Nice. Le collectif citoyen de Nice se bat depuis longtemps pour faire loger ces personnes. On se heurte vraiment à... Je ne sais plus comment appeler ça, quoi. Voilà.
Toi, c'est en moi, le préfet en la loi. Toi, c'est en moi, le préfet en la loi. Toi, c'est...
Daniel, bonjour, ici Karine de Nice. On est 6h du matin. Le préfet des Alpes-Maritimes expulse aujourd'hui 120 personnes et 40 enfants qui sont désormais à la rue. Ces familles sont des demandeurs d'asile. Ils ont donc normalement droit à un logement pendant que leur demande d'asile est examinée par leur France. La France non seulement refuse de les héberger, en plus les expulse d'un immeuble que nous avions occupé à Nice. Cet immeuble est habitable. Ces enfants avaient trouvé pendant un petit moment une pause, une vie à peu près correcte et normale.
En écoutant hier votre émission sur le problème du père à Alaminque, je comprends pourquoi chez TADEI, où on parlait du logement privé, une spécialiste qui vantait ce programme disait que trop de gens à haut revenu bénéficiaient de HLM. Et oui, on commence par éliminer les hauts revenus, ensuite les revenus moyens et puis les assistés, voilà. On arrive à baisser la liste des demandeurs et pourquoi pas ne plus construire. Au Québec, où j'ai vécu 18 ans, on construisait des HLM pour les RMistes et d'autres pour les personnes âgées. C'est pas terrible. Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Trop de journalistes aux idées subjectives et n'ayant que le mot antidémocratique dès que quelqu'un ou quelque chose ou une idée les dépasse, devraient lire The Guardian d'aujourd'hui, qui publie des infos de Wikileaks, des infos antidémocratiques, bien sûr. Alors petit 1, John Kerry, ancien candidat à la présidence états-unienne, a signé au nom des USA un pacte avec la Chine pour saboter les conférences sur le climat telles Copenhague, Cancun. Petit 2, la compagnie Shell règne au Nigeria en achetant les politiques. Voilà, tout ça c'est antidémocratique. Ciao.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Aujourd'hui, donc, comme promis, nous partons au Congo avec la phrase suivante. Je ne veux pas courir le risque de perdre une chance de nous procurer une part de ce magnifique gâteau africain. Magnifique gâteau africain, ben c'est là où nous partons ensemble à l'instant même. Cette phrase a été prononcée par Léopold II en 1875. Léopold II, qui était devenu le propriétaire, personnellement, c'était sa propriété, de ce vaste territoire, quatre fois grand comme la France, qui allait par la suite s'appeler le Congo, en 1908 seulement. Mais d'ici là, Léopold II allait faire de cet endroit sans doute l'endroit le plus terrible, le plus horrible, le plus monstrueux qui soit, tant les crimes qui s'y sont accomplis sont terrifiants. Bien sûr que Léopold II n'a pas le monopole de l'horreur coloniale, mais il a quand même poussé le bouchon très très loin. C'est donc dans ce pays que nous partons aujourd'hui, RDC, République démocratique du Congo, et plus précisément, après avoir fait escale à Kinshasa, nous allons tout à l'est, c'est-à-dire à Goma. Goma, ville frontière avec le Rwanda, ville au bord du lac Kivu, et qui a vu énormément de choses. Vous avez tous dans l'oreille ce mot « Goma », au moins si vous vous souvenez de ce qui s'y est passé en 94 lors de l'opération turquoise, si vous vous souvenez des suites de ce génocide. C'est ça dont nous allons parler aujourd'hui, les métastases du génocide du Rwanda qui se sont multipliées, qui ont contaminé tout ce pays, toute cette République démocratique du Congo. Voilà ce que nous allons évoquer à partir d'un rapport qui a été publié récemment, cet été, officiellement le 1er octobre dernier, un rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur les massacres et les actes génocidaires commis contre des populations généralement hutues dans ces régions, l'est de la République démocratique du Congo, mais par voie de déplacement à travers tout le pays. Alors ça entraîne des débats, des discussions et des controverses sur s'agit-il d'un autre génocide ? Peut-on dire qu'il n'y a eu aucun génocide mais des massacres de chaque côté ou deux génocides ? Ces controverses sont encore très vives, on n'a pas véritablement de réponse. L'histoire avance peu, lentement. Il faut des recherches, il faut des enquêtes, comme celles publiées par les Nations Unies, on va les évoquer. Mais l'histoire avance tout de même, la justice sans doute moins, et il faut évidemment s'en plaindre, mais les choses quand même s'éclairent, et les images que nous avions, épouvantables, sidérantes, en 1994, viennent à nous aujourd'hui sous un autre jour. Voilà le début du voyage. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour à toutes et à tous. Ici le Café Repère de Marly-le-Roi dans les Yvelines. Si vous demandez à M. Mascomère si la question des retraites est une question de société, il vous répondra oui. Mais il ajoutera beaucoup d'autres choses et c'est ça qui est bien avec les spécialistes. Ils argumentent dur. Alors, pour discuter avec lui, venez samedi 11 décembre à 17h tapante au bar-restaurant Le Fontenelle, 30 rue de Fontenelle, derrière la gare SNCF de Marly-le-Roi. À bientôt.
Bonjour Daniel, c'est Sylvie, j'habite à Grasse. Je te laisse un petit message, comme tous les mois, pour informer que notre prochain Café Repère se tient cette semaine, ce vendredi à 19h, au Bar des Cyclistes, à Châteauneuf de Grasse. L'adresse, c'est 23 route de Nice. Et on a choisi comme thème, au dernier Café Repère, la décroissance dans la joie et la bonne humeur. Donc on vous attend nombreux. À vendredi.
Là, on est dans Goma. Alors évidemment, pour nous, c'est le bazar, c'est le bordel, ça va dans tous les sens, mais en fait, c'est très, très organisé. Il y a les mototaxis. Alors on peut monter à 2, 3, 4 sur un mototaxi. Ils sont tous de la même couleur, ils sont tous rouges. Les mototaxis, là voilà un flot de mototaxis qui se dirigent contre nous. Évidemment, pas de casque. Voilà. Alors c'est une habileté extraordinaire parce qu'il y a des trous dans la rue. Il n'y a même pas de route du tout là où on est. C'est de la poussière, des trous et des cailloux. Les gars roulent avec une habileté formidable. On voit la 3 qui arrive vers nous, qui cherche des clients, qui va faire des contractés. Et alors, les clients sont très forts. Évidemment, c'est des clientes, c'est des dames qui reviennent du marché, qui vont au marché et qui viennent avec des ballots, avec des bassines. Ils sont tout à fait tranquilles, on dirait des princesses en exil qui sont là, parfois avec des mômes. Et le reste, alors le reste, à part quelques gros camions qui passent, le reste, c'est des véhicules blancs, c'est-à-dire soit des Nations Unies ou bien les humanitaires. Alors, Goma, l'une des grandes capitales des humanitaires, il y en a dans tous les sens, des gros 4x4, avec parfois des grandes bannières, la Croix-Rouge ou les grandes, et puis des antennes mirobolantes, impeccables la plupart du temps, qui traversent la foule avec à l'arrière parfois un humanitaire blanc, spécialiste de quelque chose, un expert en on ne sait quoi, derrière les vitres. Avec l'air conditionné, les lunettes noires et l'air très grave et très concentré. Tout un but de sa mission de civilisatrice. Et devant nous, il y a le volcan. Bon, alors on commence cette balade là, Aloïs. Et tu es notre guide dans Goma. Là, on commence par les beaux quartiers. Hein. Là, c'est le quartier des beaux hôtels, des beaux restaurants et des humanitaires. Les humanitaires sont très nombreux dans le coin.
Là, nous sommes en train de passer le chalet, qui est le restaurant chic de la ville de Goma. Il organise un buffet chaque dimanche et tous les humanitaires des Nations Unies, toutes les ONG internationales viennent manger ici à midi. Ce qui fait que ça donne un peu l'atmosphère de la Côte d'Azur à Goma, quoi.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, je suis avec Guy Ventil, Congo, Kivu, Katanga, ce magnifique gâteau africain. Flight number 2, arriving
from... Ah là oui, c'est prodigieux. On voit un nuage rougeoyant au-dessus du volcan. Dans l'obscurité qu'on distingue à peine le volcan, mais on voit un nuage dans le noir, rouge-orange.
Ah ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une lueur rouge.
C'est encore un peu couvert, mais je pense que d'ici quelques heures, ça sera tout rouge, ça sera très beau. Ah,
si on ne le sait pas, on peut prendre ça pour un bout de coucher de soleil. Mais c'est pas un coucher de soleil.
Non.
C'est quelques lueurs pourpres comme ça.
Ça, c'est la lueur du lac de lave qui se trouve dans le ventre du volcan. Alors, pendant l'éruption de 2002, il y a un détail important que je voulais vous montrer ici. Ici, se trouvaient les réserves du carburant. Il y a eu une sorte de miracle terrible. La lave s'est arrêtée juste à côté des citernes. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Que la lave s'est arrêtée juste à côté des citernes, je trouvais ça extraordinaire. Parce qu'on a vu combien les stations d'essence qui étaient en ville, quand ils étaient brûlés par la lave, on voyait une sorte de bombe qui montait à 50, 100 mètres en haut avec un bruit assourdissant, c'était quelque chose.
Vous voyez une bande de ciel très claire clair-obscur, et au-dessus, un énorme ciel de plomb noir comme de l'encre. Et dans ces ténèbres, cette lueur rouge, d'un rouge pourpre, comme en effet vous n'en avez jamais vu, c'est le reflet du lac de lave dans le ventre du volcan Nyiragongo. C'est lui le personnage principal de cet endroit, de cette ville terrible, terrifiante, vivante, noire, bizarre de Goma, une de ces villes où il s'est passé plus de choses que dans la plupart des autres endroits de cette planète, au moins dans la période récente. Mais le personnage principal s'appelle Nyiragongo. Il est vivant, c'est le plus vivant et le plus dangereux des volcans africains. 20 millions de mètres cubes de lave en 40 minutes en 1977. 20 millions de mètres cubes de lave en 40 minutes. 500 morts. Oh, 500 morts, c'est pas beaucoup dans cette région. Un petit festin de volcans. Les morts dans ces régions se comptent par milliers, dizaines de milliers. On est à Goma. Vous vous souvenez Goma, l'opération turquoise en 1994? Vous vous souvenez les réfugiés Hutus qui traversent la frontière? Et puis en 1996, les réfugiés Hutus qui retraversent la frontière dans l'autre sens. Et puis la longue marche vers Kinshasa. Une longue traînée de sang, de meurtre, d'extermination à travers tout cet énorme pays, cet énorme ventre vert qu'est le Congo. 200, 250 000 périront ainsi jusqu'à la prise de Kinshasa, jusqu'au renversement du maréchal Mobutu, jusqu'à la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila. Mais c'est parti de là, c'est parti de cet endroit, de Goma, où nous sommes. Franchement, on aimerait bien réussir à vous intéresser à ce sujet. Pourquoi ? Parce que l'Afrique noire est en train de disparaître. L'Afrique noire sort de nos consciences, sort de nos radars. Oui, bien sûr, il y a la Côte d'Ivoire, mais en ce moment... vous comprenez ce qui se passe en Côte d'Ivoire ? Essayez autour de vous de demander qu'on vous explique ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut, oui, oh, peut-être une finale de Coupe du Monde en Afrique du Sud pour qu'on s'intéresse à l'Afrique. Et pourtant, ce continent nous regarde, pas d'une manière culpabilisante, surtout pas de culpabilisation. C'est un sentiment inutile. Et puis comme il sera question, il en a été question d'emblée, de la colonisation, j'ai tout de suite évoqué Léopold II, il ne faut pas oublier que lorsqu'on dit la Belgique, la France, l'Angleterre, la Hollande, le Portugal ont colonisé, ce n'est pas les peuples qui ont colonisé, ce sont les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques et leur cortège d'idéologues qui sont là pour justifier les choses. Il s'est trouvé au cours de cette colonisation des hommes pour la dénoncer. Il s'est trouvé des hommes pour la justifier. Je reviens sur Léopold II, qui avait pour but, disait-il, d'ouvrir à la civilisation la seule partie de notre globe où le christianisme n'est pas encore pénétré et dissiper les ténèbres enveloppant une population tout entière. Fin de citation. C'est le mot ténèbres là qu'il faut retenir. C'est les ténèbres qui sont au-dessus de nous dans ce ciel noir d'encre, ce sang d'encre, sang à cause de cette lueur rouge. Mais à cette déclaration de Léopold II, et qui est imbue de cette imposture philanthropique qui ressemble assez aujourd'hui à ces gros 4x4 blancs des humanitaires, imposture philanthropique, quelqu'un d'autre répondait, et c'était Joseph Conrad, qui finit un de ses chapitres ainsi. Il dit ces mots, lumineux et terrifiants, comme un éclair dans un ciel serein, exterminer toutes ces brutes. Pourquoi est-ce qu'on espère vous intéresser à ce qui s'est passé ici, à ce qui s'y passe toujours? C'est qu'il y a là des clés de notre temps, de notre XXe siècle. Des choses qui expliquent non seulement le génocide du Rwanda et les génocides, peut-être, on va en discuter, qui s'est propagé à travers le Congo, mais aussi notre XXe siècle à nous en Europe. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, avec Guy Vanctil, Congo, Kivu, Katanga, ce magnifique gâteau africain.
Il faut imaginer Goma comme une ville, c'est surprenant pour nous, comme une ville minière. On dirait un peu les villes du nord de la
Terre.
Parce que comme la ville est au pied du volcan, la terre est noire. Partout il y a ces roches noires, cette lave. Et c'est d'abord une ville qui est en dessous d'un volcan, Aloïs.
Non, c'est une ville qui est construite sur les pierres volcaniques. Et le fait que nous vivons au pied de ce volcan... La ville a une relation tout à fait particulière avec le volcan parce que régulièrement, de temps en temps, donc, il y a une éruption et puis une partie de la ville est brûlée et puis la vie continue toujours. Hein. Je me rappelle en 2002, il y a eu l'éruption volcanique. Notre institut, Paul Institute, a fait une recherche pour savoir en fait, faut-il maintenant déménager la ville ou pas. Et les résultats de notre recherche, c'était très clair que personne ne voulait quitter la ville de Goma.
D'accord, on aurait pu croire que les gens allaient fuir. Il y a quand même une centaine de morts en 2002, la dernière éruption de 2002. La lave arrivait dans la ville, recouvrait des parties des quartiers, une partie de l'aéroport.
Presque la moitié de l'aéroport a été ensevelie.
Et tu disais que les gens, non seulement les gens n'ont pas fui, mais ils se faisaient à manger sur la... Ils utilisaient la lave en fusion pour faire la cuisine.
Oui, les gens... préparer la nourriture sur la lave chaude.
Il faut dire quand même que c'est dommage parce que notre institut a brûlé, beaucoup de maisons ont brûlé. Mais en fait aussi, il faut dire que assister à une coulée de lave réelle en direct,
ouais,
c'est un phénomène d'une beauté extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire.
Hein. Le volcan, là, on le voit là, ouais, il est juste derrière nous, ouais, il est en train de fumer. Mais alors là, tout de suite avec Goma, on parle du volcan, on parle du feu, mais il faut parler de l'eau. Parce que Goma, c'est le lac Kivu, immense lac, donc une ville coincée entre l'eau et le feu. Aloïs, tu parles de Goma. Si le mot Goma est lié à quelque chose en France, veut dire quelque chose pour les Français, c'est bien 94. Ce flot invraisemblable de réfugiés, vraiment ce flot humain qui rentre dans Goma, c'était une des quatre villes hein, par où les réfugiés sont rentrés. Ça a été 1 million de réfugiés en quelques jours.
Bah écoute, ça c'est le phénomène le plus spectaculaire que cette région a connu. D'abord en juillet 1994 avec le flux massif de réfugiés rwandais qui se sont déversés sur la ville de Goma avec une capacité, à ce moment-là cette ville était à peu près 200 000 personnes. Hein, et là vous avez à peu près 700 000 personnes qui débarquent dans la ville, donc carrément impossible de respirer. Et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, on a essayé de les caser un peu à l'extérieur de la ville. Tout commence à ce moment-là.
94, les réfugiés Hutus du Rwanda. Parmi eux, il y a ceux qui ont été les instigateurs du génocide du Rwanda, les FAR, les forces armées rwandaises, le Hutu Power s'installe ici.
À ce moment-là, vous aviez les camps des réfugiés de Hutu rwandais qui étaient de ce côté-ci, bien cadrés et quadrillés par l'administration locale rwandaise qui s'était déplacée avec les populations, mais aussi par les ex-FAR de l'armée rwandaise et les miliciens Interahamwe qui quadrillaient carrément les camps des réfugiés rwandais ici à Goma. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, le Rwanda commençait à bouder parce que le HCR, qui dirigeait à ce moment-là les camps des réfugiés rwandais, disait « Écoute, le retour ne peut qu'être volontaire et ça ne sera jamais forcé. » Et c'est dans ce sens-là que le Rwanda, finalement le président Kagame, disait « Écoute, si vous ne le faites pas, je vais m'en occuper moi-même. » Et c'est ce qui est arrivé en automne 1996.
Là, ça a été terrible. C'est-à-dire que l'armée rwandaise est arrivée et ça a été les massacres.
Au début, ils ont encerclé les camps. D'abord, ils les ont dispersés. Ceux qui étaient du côté de Kibumba de Katal, ils sont descendus vers Mugunga, ici, à l'ouest de la ville de Goma. Et puis, ils ont bloqué les voies d'accès. Ils ont laissé juste comme la seule porte de sortie
vers le Rwanda.
Le retour vers le Rwanda ou le lac Kivu. Ce qui était difficile de se jeter dans le lac quand même. Donc la grande majorité a choisi de prendre le retour vers le Rwanda.
Oui,
mais alors les massacres dont on parle et qui sont maintenant aujourd'hui objet du fameux mapping dont tout le monde parle.
C'est-à-dire le rapport des Nations Unies.
C'est beaucoup plus la poursuite de la FDL vers la conquête du pays dans l'ensemble.
Il faut rappeler qu'à ce moment-là, c'est joint aux APR, la FDL, qui était une unité montée par Laurent-Désiré Kabila, du côté du Congo, en liaison totale avec le Rwanda de Kagame.
Il fallait plutôt dire que l'existence de l'AFDL, de Laurent-Désiré Kabila, était une création importante pour le Rwanda pour pouvoir effectivement faire son entrée au Congo. Sinon,
c'était une invasion.
Exactement. Ça aurait été impossible pour eux de faire ce qu'ils voulaient faire sans le couvert d'un groupe local, même si on sait qu'il était fabriqué, monté de toutes pièces pour couvrir ces opérations rwandaises. Mais en réalité, ce groupe s'est mué en une rébellion nationale qu'on a appelée AFDL et dans la suite qui était tout à fait soutenue officiellement par le Rwanda et par l'Ouganda. Et quand la rébellion de l'AFDL a commencé, pour les populations congolaises, c'était une occasion à ne pas rater pour effectivement éjecter Mobutu. Et c'est ce qui s'est passé.
Oui, c'est ce qui s'est passé, mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que ces Hutus réfugiés ici ont été poussés vers les forêts, vers le nord, et ont été massacrés. Ont été massacrés également des populations Hutus du Congo, qui sont là depuis longtemps. Ça a été ces fameux massacres dont on a eu connaissance au fur et à mesure à l'époque, mais aujourd'hui, en 2010, on a ce fameux rapport dont on vient de parler, le fameux mapping, c'est-à-dire la carte de tous ces massacres, qui est aujourd'hui précisément documentée, et qui est un document accablant pour, alors à la fois, le Rwanda, le gouvernement du Rwanda et le gouvernement congolais de l'époque. Voilà, on est avec l'ami Jacques et avec Aloïs Teguera d'un institut qui s'appelle Paul Institute et qui est un centre de recherche. On va prendre quelques minutes, je vais essayer de vous résumer les chapitres précédents, parce que déjà, on emploie des mots, des raccourcis, etc. Et on voudrait vraiment vous intéresser à cette histoire. Il faut rappeler où est le Rwanda. C'est un tout petit pays, tout comme le Burundi voisin, à côté de cet énorme Congo, je le répète, Congo, RDC, République démocratique du Congo, depuis 1997, mais qui auparavant s'appelait, vous le savez, le Zaïre. Or, pour mieux dominer, le colonisateur belge a exacerbé le clivage au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, d'ailleurs comme au Burundi, en jouant les uns contre les autres, ce qui a entraîné une suite de conflits et de massacres à partir de la fin des années 50. Du coup, des Tutsis s'exilent, surtout dans les pays voisins, notamment en Ouganda, et de là ils vont préparer le retour, la revanche, et constituent une armée très solide qui s'appelle
le FPR, Front Patriotique Rwandais, et qui va rentrer au Rwanda en 1990 pour reprendre le pouvoir et avancer jusqu'à Kigali en 1994. Là, pour se défendre et en représailles, ce qu'on appelle le Hutu Power, c'est-à-dire les Hutus radicaux ou Interahamwe, vont se lancer dans une suite de massacres organisés. C'est le génocide des Tutsis du Rwanda. 800 000 victimes, dit-on, 1 million, dit-on. En 100 jours, ce génocide se déroule. Il est très rapidement, les massacres sont très rapidement qualifiés de génocide. Se déroule au su et au vu du monde entier qui regarde et ne fait rien, ni les Nations Unies, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni d'autres puissances, ni d'autres pays africains. Personne n'arrêtera les tueries. Enfin, en juin 1994, la France, qui a à l'époque pour président François Mitterrand et pour Premier ministre Édouard Balladur, lance l'opération Turquoise pour assurer la protection, non pas des Tutsis, mais des Hutus. Et grâce à cette opération Turquoise, par dizaines de milliers, les Hutus vont se réfugier à ce qui est à l'époque encore le Zaïre, et vont se réfugier notamment là où nous sommes, c'est-à-dire à Goma. Au total, on estime, on avance parfois le chiffre de 2 millions de réfugiés qui s'installeront le long de la frontière avec le Rwanda. Alors parmi ces réfugiés, il y a les membres du pouvoir Hutu, les forces armées, les instigateurs et les exécuteurs du génocide, mais il y a aussi des Hutus tout à fait ordinaires qui ne sont coupables de rien, mais qui redoutent au Rwanda les représailles des Tutsis qui ont pris le pouvoir, qui vont prendre le pouvoir en juillet 1994. Malgré la présence du HCR et des nombreuses ONG, très vite, le pouvoir Hutu, le Hutu Power, va prendre le contrôle des camps de réfugiés, va préparer le retour et la revanche. C'est du moins ce que redoute et dénonce Kagame, le général Kagame, qui est l'homme fort du Rwanda, homme fort non seulement à cause de la victoire militaire, de sa victoire militaire, mais à cause de l'énorme capital victimaire que lui confère le génocide. La lâcheté de la communauté internationale lui donne une totale impunité, une totale immunité, plus rien ne l'arrête. La menace que constituent les camps de réfugiés Hutus au Zaïre lui fournit le prétexte d'entrer au Zaïre. En vérité, au Zaïre, d'autres choses attirent le Rwanda de Kagame. Le Rwanda n'a aucune ressource, alors que le Zaïre n'a que ça, regorge de ressources. C'est le fameux scandale géologique, tout un tas de minerais sur lesquels nous reviendrons. Mais dans cette zone, tout particulièrement le coltan, qui est ce minerai nécessaire au fonctionnement de nos portables et de nos ordinateurs, tout comme la cassitérite. Et évidemment, il s'agit de ressources qui sont convoitées. Mais pour ça, il faut faire tomber Mobutu, qui est encore au pouvoir, et s'imposer au Zaïre. Alors, le Rwanda va choisir un opposant à Mobutu, un vieil opposant à Mobutu, une sorte d'homme de paille, d'idiot utile, et ce sera Laurent Désiré Kabila qui se retrouve à la tête des AFDL, dont on vient de parler, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Zaïre, fait un mélange de forces tutsis du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Et tout ça se passe en 1996. Et la première grande opération du AFDL, AFDL, ce sera l'évacuation du camp de Mugunga, qui est juste à côté, à la sortie de Goma. Il s'agit d'un camp où on a 750 000 personnes qui sont réfugiées, là, serrées les uns contre les autres. Alors en quelques jours, plus précisément le 16 novembre 1996, l'AFDL va procéder au nettoyage du camp. En quelques heures, 600 000 personnes vont être poussées vers la frontière, vers le Rwanda. Rentrer au Rwanda, ils rentrent 600 000. Mais il en restera 120 000, 150 000, qui vont être pourchassés, qui vont être massacrés, qui vont disparaître et qui constituent une part de ceux qui figurent maintenant dans cette succession de rapports. Parce que si aujourd'hui on a publié au mois d'octobre ce rapport des Nations Unies, il y a bien longtemps que, déjà en 97, puis en 99, puis en 2000, etc., on a publié des rapports, des témoignages, des reportages nombreux pour dénoncer ces massacres et ces tueries qui vont se succéder, visant évidemment, en principe, le Hutu Power, ceux qui veulent revenir au Rwanda et qui sont les génocidaires, bien évidemment, mais pas seulement. Ce sera en général les Hutus, et les Hutus pour ce qu'ils sont en tant que Hutus, qui seront bel et bien massacrés au cours de ces deux années, de 1996 à 1998. En 2000, des gens comme Ronnie Broman, le journaliste Stephen Smith et la chercheuse Claudine Vidal dénoncent le FPR de Kagame et indiquent que le FPR a persécuté sur 2000 km entre Goma et Kinshasa, à travers la forêt équatoriale, des civils dont 200 000 ont péri d'inanition ou de maladie ou exécutés par des unités spéciales lancées depuis Kigali. C'est peu à peu cette vérité, ces témoignages, ces enquêtes, ces recherches qui émergent. C'est lent, c'est très lent. La vérité va ainsi.
Sana milele myani mboka yanika kumuhini kambi nzembele myani mboka lundi la mwana busana o mama na utsetsa mde Nao tsetsa munde konzari tela mama kambanza kandi tela mama kambanza kandi tela mama kambanza kandi tela mama kinzimbikini mwana tela mama kinzimbikini mwana Busana.
Là, il commence à pleuvoir, là. Mais là, en contrebas du terrain de foot...
Donc là, après les toilettes en bas, là-bas,
ouais.
Il y a une fosse commune.
Et on a retrouvé beaucoup de corps.
Oui, il y a beaucoup de corps. Donc si on y va, on vous raconterait des fils en fer. On a
autour.
Déjà isolé, oui, autour, pour signaler qu'il y a une fosse commune.
Il y a une fosse commune là. Ouais. Donc, il y a combien de corps dedans, tu sais?
C'est beaucoup. Donc, il y a là-bas, il y a encore ici en haut. Donc, ici en haut, à quelques 200 mètres, il y a aussi d'autres corps. Donc, il y a des fosses communes qu'on avait fait pendant la guerre de l'Orange, des Sérékabé, qui ont tué beaucoup de gens ici. Même nous avons perdu nos grands frères, nos pères, je suis orphelin.
Tes parents ont été tués à ce moment-là?
Oui, mes grands frères. On ne les tuait pas avec les cartouches, c'est avec des petits houx.
Des petites houx.
Et oui, des petites houx.
Qu'on travaille pour les champs.
Pour planter. On les appelait les kafouni. Donc on les prenait puis on fait comme ça. Quand? Dans la tête.
On tapait dans la tête.
Oui.
Et toi, y a les gosses qui jouent, il y a les grands qui jouent au foot là. Et toi, tes parents sont morts comme ça?
Oui. Sont morts, et mes grands frères, mes deux grands frères.
Et ils sont enterrés où?
Non, on a manqué les corps, donc ils sont aussi dans les fosses communes. on ne sait pas si on peut retrouver l'eau dans quelle fosse commune. Non, on peut seulement détecter avec des machines. On dit qu'il y a des appareils qu'on utilise pour détecter si des ADN, je ne sais pas.
ADN, c'est ça ADN.
Oui.
Directement mortel.
Ça peut signaler que mes ADN, c'est comme les ADN de mon père. Et directement, ça signale que c'est là où le corps de mon père était enterré. Donc, on les tuait et les jetait en désordre comme ça dans les fosses communes. Moi, je ne savais pas si là, il y avait une fosse commune. Oui. La MONUSCO.
Les Nations Unies.
Les Nations Unies. Ils sont venus ici se rendre compte. Ils ont essayé de déterrer quelques corps. Mm-hmm. On a vu avec nos propres yeux. Jésus témoin oculaire. On a vu des crânes, les os, les fémurs, tout ça, on a vu
là-bas. C'était les enquêteurs de l'ONU qui faisaient l'opération, le rapport de mapping, ce qu'on appelle, sur tous les crimes commis dans le Congo entre 1993 et 2003.
Mais dis donc, là, il pleut moins, on peut peut-être avancer un peu jusque-là.
Regarde, on peut aller voir.
On peut aller juste là-bas.
Oui, c'est un problème.
Voilà, là on est à Rutshuru, c'est à, au nord de Goma. Y a une ambiance de trouille. On est venu pour écouter des témoignages sur ces massacres, sauf que tout le monde a peur. A peur de parler, et pourtant vous avez entendu ce jeune homme, eh bien c'est sa famille, c'est les siens qui sont dans ces charniers, sous cette terre entourée de fils de fer barbelés, et c'est les enquêteurs des Nations Unies qui sont passés par là il y a quelque temps. Mais la peur règne, parce que très longtemps, cette région de Rutshuru, jusqu'à une époque extrêmement récente, était sous le contrôle du CNDP. Le CNDP, c'est une force armée sous contrôle, on va dire, rwandais. C'était Laurent Nkunda qui était à la tête de cette unité, qui a disparu depuis. C'est un peu compliqué à vous raconter, mais en tout cas, il y avait cette présence sur cette zone, habitée généralement par des Hutus, mais pas des Hutus rwandais, des Hutus congolais, qu'il faut comprendre. Voilà, c'est qu'il y a des Hutus congolais ou Zaïrois d'hier qui vivent là depuis fort longtemps, tout comme il y a également des Tutsis qui vivent là depuis très longtemps, qui sont des Tutsis congolais qui habitent dans cette zone. Et c'est donc ces Hutus congolais qui ont fait l'objet de ces massacres organisés et prémédités.
C'est ici.
C'est ici, là ?
Oui, c'est ça.
Ah oui, on voit. On voit les barbelés. C'est vraiment un flanc de coteau.
Il y a le trou, on a entouré avec des fils barbelés. C'est ici. Là, il y a une fosse commune. Ah.
Et ça, tout le monde le savait, évidemment.
Les vieux du village le savaient.
Ils le savaient.
Oui, c'est nous les enfants qui ne le savons pas, parce qu'on avait fui. On avait fui dans les montagnes là-bas. J'avais 10 ans.
Il y a beaucoup de fosses communes dans le coin ?
Oui, même là-haut, à 200 mètres d'ici. Même à Kiwanja, partout. Dans le territoire, il y a beaucoup de fosses communes.
Ouais.
On a connu beaucoup de problèmes dans ce territoire. À chaque année, on peut avoir des morts, chaque année.
Alors c'est mouillé là, ça tombe bien la pluie,
oui,
là.
Oui.
C'est plus tropical qui tombe. Vas-y, cours.
Moi je vais au studio.
Va au studio.
Je vais au studio.
Pour l'émission ?
Oui, pour l'émission.
Ah c'est ça, la radio, la radio n'attend pas.
Vas-y.
Call
ma Camille solo. Ni kamboni meleki na Camille solo. Ni kona mi koloso na kutuna kai papa Camille. Butula moi solo. Na koyemba Camille. Camille, 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 Camille. Nana bonde makambo. Batuninga comba Camille, na Camille Camille, Camille Ferrousier. Yo mona ya papa, yo mona ya papa, banana kisangani. Oh Camille, 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 Camille. Camille, Mungu Camille.
Et tout ça se passe dans une chambre de cet hôtel-là, de cette petite ville. On est enfermé dans cette chambre parce que tout le monde a peur de, voilà, de parler. Donc ils ont eu le courage de venir en voiture, on est allé les chercher discrètement, ils sont entrés discrètement dans la cour de l'hôtel, et puis ils viennent, ils arrivent dans cette chambre pour témoigner. Mais c'est très tendu, ils ont peur, ils prennent beaucoup de risques si jamais ils sont vus avec des Muzungu, c'est-à-dire nous, avec des Blancs. Voilà. Encore du clair-obscur dans cette chambre, dans cette pièce, avec ceux qui tiennent, quels que soient les risques qu'ils courent, à témoigner sur ce qui s'est passé, sur la disparition des gens de leur famille, sur ce qu'ils ont vu, et sur ce qu'ils ont sur le cœur aussi depuis si longtemps. Depuis si longtemps, ça fait 14 ans qu'ils ont vécu ces choses-là. Et ça fait 14 ans qu'ils attendent une reconnaissance, qu'ils attendent que la justice, peut-être un jour, se mette en route, qu'ils attendent d'être écoutés. Encore une fois, ils l'ont été. Il y a eu, je le disais, il faut le répéter, des rapports, des reportages, des missions, des études sur, qui concordent toutes sur ces... Mais il y a eu aussi un blocage évidemment, du pouvoir rwandais, la publication de ce qu'on appelle donc, vous avez compris, le mapping, c'est-à-dire ce rapport des Nations Unies, a suscité la colère et la rage du gouvernement rwanda qui a menacé de limiter la présence de ses troupes dans la région du Soudan. Donc c'est quelque chose que le Rwanda ne veut pas faire savoir, ne veut pas que ça existe. Mais voilà, le temps passe, le capital victimaire se réduit quand on en abuse vraiment trop, et une part donc de la vérité est en train d'émerger. Avec nous dans cette pièce, dans la pénombre, un jeune garçon, dont on ne pourra pas dire le prénom, on a promis de ne pas dire son prénom, tient absolument à intervenir. Raconte-nous un petit peu la situation en général ici, dans la région.
Ah oui, en fait, ce qui est vrai, c'est que maintenant, il y a un problème très sérieux par rapport à l'insécurité, hein, parce que chaque jour, on enregistre des morts partout. Parce que chaque matin, quand on se réveille, il y a des morts, il y a des pillages, il y a des viols qui se font. Et ce qui est aussi pire, c'est que même ici, dans la ville même, les gens ne dorment plus encore dans des maisons parce qu'ils ont peur d'être agressés la nuit. Et beaucoup d'histoires là qui sont en train de se passer dans cette cité de Rutshuru.
Alors ici, en principe, vous êtes sécurisé, entre guillemets, par l'armée congolaise.
Oui.
Et à l'extérieur, vous êtes, entre guillemets, menacé par des bandes armées qui relèvent d'un groupe précis ou pas?
Oui, les groupes précis, il y en a. Il y a l'FDLR, il y a
les FDLR,
oui, oui.
C'est un groupe
armé, déjà ancien, qui est constitué au départ des Hutus du Rwanda qui sont venus là en 94.
Oui. En fait, ce sont ces gens-là. Mais maintenant, il y a aussi une coalition. Il y a pas que seulement des Hutus qui sont venus du Rwanda. Il y a aussi même des populations d'ici, notamment les Maïmaï, qui se sont coalisées avec les FDLR.
C'est ça. Qui c'est les Maïmaï?
Les Maïmaï, c'est des gens, en fait, par rapport, si vous suivez bien l'historique de, disons, du conflit ici au Congo, surtout ici à Rutshuru, il y a eu, en fait, des milices par-ci, par-là, créées par des communautés. Alors, il y a des Maïmaï qui ont été créés par d'autres communautés, il y a des Pareko. Alors, tout ce monde-là, alors, s'est associé aux FDLR.
D'accord, pourquoi faire ?
Déstabiliser la région, parce qu'ils sont là, ils sont en train de piller, ils sont en train de violer, ils font tout ce qu'il y a comme abus.
Les forces rwandaises pour chasser les réfugiés, ça c'est en 96,
oui,
où il y a des forces qui viennent du Rwanda, domination Tutsi,
oui,
qui viennent ici pour pourchasser les Hutus qui restent ici. Pourquoi ? Il y a deux raisons à ça. L'une, c'est que le gouvernement de Kigali craint que le pouvoir Hutu, le Hutu Power, se reconstitue ici et revienne au Rwanda. Donc c'est une de ses craintes. Et l'autre but aussi pour le Rwanda de Kagame, c'est de venir ici, dans une région extrêmement riche, pour trouver des ressources.
Au-delà de ces deux raisons que vous avancez, il y a aussi une autre raison que peut-être même la communauté internationale n'a jamais compris. C'était la raison aussi d'exterminer tout Hutu, même les Hutus congolais. C'est comme cela, même quand ils sont arrivés, ils n'ont pas tué seulement les réfugiés rwandais, les Hutus rwandais, mais ils ont aussi exterminé, avec précision, avec objectif d'exterminer aussi même les Hutus qui vivaient ici chez nous.
Et ce que tu dis là est confirmé par la publication au mois d'octobre de ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire un rapport publié par les Nations Unies qui détaille tous les crimes commis entre 1993 et 2003 dans la région où nous sommes, mais notamment sur la période que tu indiques, c'est-à-dire 96-98. C'est-à-dire qu'il y a eu une intention génocidaire de faire disparaître un peuple pour ce qu'il est. Alors, revenons à cette époque-là, en 96, t'avais quel âge, toi ?
J'avais 16 ans. Et il y a eu entrée de l'armée rwandaise. Sitôt arrivés ici, comme ils ont prétendu avoir une mission de venir chasser les Hutus, les FDLR, les génocidaires. Mais arrivés ici, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui sont morts, ce ne sont pas seulement ces génocidaires-là, mais c'est plutôt beaucoup plus la communauté Hutu congolaise. Les gens qui sont morts dans mon quartier, est-ce qu'ils sont génocidaires? Non. Les églises qui ont été brûlées avec des gens, ce n'était pas des Rwandais, c'était des Hutus congolais. Les fosses communes que nous avons à Rutshuru, vous voyez à Kiringa, il y a d'autres à Busanza, partout là, ce n'était pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Et même les gens qui ont fait ça, ils savaient exactement que ce n'était pas des Rwandais, c'était des Hutus congolais, innocents, qui ne savent pas ce qui s'était même passé au Rwanda. Comprenez que donc, ils sont venus, non seulement avec cette mission, mais aussi chercher à pérenniser leur pouvoir. Et pour pérenniser leur pouvoir, il fallait maintenant tuer toute personne qui s'est dit Hutu.
Alors, quelle a été leur stratégie ?
La stratégie, c'est qu'ils sont venus avec une liste d'abord des gens qui étaient connus. C'est des chefs, ça, c'est tel, des professeurs, tout ça. Alors, il y avait d'abord une liste des gens qu'il fallait tuer. C'est comme ça qu'ils ont commencé par là et les ont tués. Toute personne qui avait étudié et qui avait au moins un niveau de diplôme d'État, là, il fallait exterminer. Parce que c'était des personnes dangereuses, croyant que non, plus tard, ils allaient dénoncer ça. Là, il fallait directement exterminer ces gens. Et à part ça aussi, ils sont allés plus loin. C'est comme ça qu'ils ont même commencé à appeler des gens dans des réunions, dans des églises. Et puis, quand vous êtes là, on met le feu. Il y a beaucoup qui sont morts.
C'est-à-dire qu'ils ont reproduit ce qui était arrivé au Tutsi du Rwanda.
Exactement. Ils ont même utilisé des coups de machette, ils ont utilisé même des haches, ils ont utilisé des houes. Taper les gens dans la tête et ils sont morts. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont creusé des trous, ils ont fait des fosses communes. Et je me rappelle, mais maintenant ici, en 98, quand le RCD commence, il y a même des endroits où on a déterré des os ici chez nous au Congo, qu'on a amené au Rwanda et qu'on a mis même dans des musées au Rwanda, soit disant que ce sont des Tutsis qui sont morts, alors que c'est des os qui ont été déterrés ici chez nous. Et on a amené au Rwanda, et on montre aux gens que non, voilà, il y a eu génocide. Et maintenant, là, la communauté internationale, quand les Blancs arrivent, vous dites non, non, là, tout le monde maintenant doit pleurer, il faut amener de l'argent, il faut faire ceci, au détriment des autres.
On continue demain à Rutshuru, quoi qu'il en soit. On voit bien que c'est là la fin de 16 ans d'impunité pour les vainqueurs du Rwanda, au Rwanda. C'était un reportage avec Guy Vanctil, montage Mathias Barré, Agnès Lebotte. Merci à Loïs Teguera de Poly Institute, à Jacques Cahora, Évariste, Akili, Albert Cambalé. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Éric Morin et Guillaume Roux, Koye Nguyen et Franck Adhérère ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebotte, encore elle, et Marina Touillès, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France Inter et France Télévisions, partenaires de l'exposition Basquiat jusqu'au 30 janvier 2011 au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. C'est une vaste rétrospective, la première de cette envergure présentée en France à l'artiste américain Jean-Michel Basquiat à l'occasion du 50e anniversaire de sa naissance. Retrouvez l'exposition Basquiat dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Suite demain au Kivu, je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
Quelles leçons tirées de la pagaille en Île-de-France après les fortes chutes de neige d'hier? Pour la préfète des Yvelines, Anne Boquet, la situation témoigne de la saturation des réseaux routiers et des transports en commun dans le département. Selon le secrétaire général de la préfecture, les moyens étaient là en quantité adaptée, mais la grande difficulté était l'accès des engins eux-mêmes bloqués dans les embouteillages. Même analyse de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Le blocage d'hier montre les limites de la politique du tout routier, estime la CCI, qui souligne l'urgence du projet de métro Grand Paris. Enfin, selon le syndicat FO Équipement, le blocage de milliers d'automobilistes sur les routes est dû au démantèlement des services de l'État. Et sur les routes, la situation s'améliore petit à petit. Maxime Tellier, vous êtes au PC routier de Rosny-sous-Bois. Les difficultés de circulation persistent, mais ça s'améliore ?
Oui, ça s'améliore avec des difficultés principalement dans le sud de l'Île-de-France avec la N118 qui est maintenant fermée dans les deux sens entre le Petit Clamart et les Ulis. Un accident impliquant un poids lourd a eu lieu à hauteur du pont de Bièvre vers la province. En région parisienne, toujours un autre axe est également coupé, la francilienne intérieure entre Logne et Emerainville, et en extérieur entre Comble-la-Ville et Logne, à nouveau sur cet axe. Notez également que les poids lourds sont à nouveau autorisés à circuler en Île-de-France, mais ils sont encouragés à passer par un itinéraire réservé dans les deux sens en empruntant la 1, la 3, la 86 et la 6. Attendez-vous à croiser beaucoup de camions sur ce trajet. Et puis un mot de la province dans le nord, la 29 est fermée entre Aumale et l'échangeur de Neuchâtel Nord. Mais là, on n'en connaît pas la cause, Corinne.
Merci Maxime Tellier en direct de Rosny-sous-Bois. Demain à Oslo en Norvège, le comité Nobel remettra symboliquement le Nobel de la paix à Liu Xiaobo. Symboliquement car ni l'opposant chinois ni aucun de ses proches ne peut faire le voyage en Norvège. En tout, sur 65 ambassades présentes à Oslo, 20 pays ont décliné l'invitation à la cérémonie. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Navi Pillay, appelle à la libération de Liu Xiaobo. Elle se dit également préoccupée par les pressions sur le site Wikileaks, qui publie depuis 10 jours des documents secrets de la diplomatie américaine. C'est une pétition signée par plus d'un million de personnes qui demande l'arrêt des autorisations d'OGM en Europe. Le texte vient d'être présenté à la Commission européenne. Conformément aux nouveaux droits d'initiative prévue par le traité de Lisbonne. Le directeur de Greenpeace pour l'Europe, à l'origine de la pétition, s'inquiète du peu d'enthousiasme de Bruxelles sur ce texte. Les autorités européennes soulignent que l'initiative citoyenne n'entrera en vigueur que fin 2011. Le blogueur irano-canadien Hossein Derakhshan, considéré comme le pionnier de la blogosphère en Iran, a été libéré sous caution pour une durée temporaire. Condamné à 19 ans de prison, il est détenu en Iran depuis plus de 2 ans. Il a fait appel de cette condamnation. Hossein Derakhshan avait été le premier à créer un blog en langue persane. Le Conseil d'État ne rendra sa décision sur l'invalidation de l'élection de Jean-Paul Huchon à la tête de la région Île-de-France qu'en janvier prochain. 2020. Les avocats du patron PS de la région ont déposé un recours, ce qui retarde la procédure. 8 mois de prison avec sursis pour le père qui avait laissé sa fille de 4 ans seule sur le parking d'une boîte de nuit pendant qu'il était allé danser. C'est ce que vient de décider le tribunal correctionnel de Colmar. La peine est assortie d'une mise à l'épreuve de 3 ans. Une centaine de salariés de Sanofi Aventis sont rassemblés devant le siège du laboratoire pharmaceutique à Paris. Le groupe a annoncé lundi la suppression de 575 emplois, essentiellement des visiteurs médicaux. FO rappelle que Sanofi a été l'une des entreprises les plus profitables du CAC 40 en 2009.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet. Je vous attends nombreux pour les enregistrements du jeu des 1000 euros dans l'Aude aujourd'hui à Gruissan à 18h30 et demain dans les Pyrénées-Orientales à Vernay-les-Bains à 18h. À très bientôt.
France Inter et France 4 présentent Gotham Project. En concert au Casino de Paris les 21 et 22 janvier 2011. Retrouvez Gotham Project dans le programme musical de France Inter. France Inter, partenaire de la Fête des Lumières à Lyon du 8 au 11 décembre. Entrez dans le monde de la lumière et de la création grâce à l'un des plus grands événements urbains. Et retrouvez Je hais les dimanches d'Alessandra Sublet en public du Salon d'honneur de l'Hôtel de Ville de Lyon le vendredi 10 décembre à partir de 17h. Renseignements sur franceinter.com.
France Inter. France Inter. La différence.
À 16h05 sur France Inter, il est l'heure de retrouver Frédéric L'Odéon et le Carrefour de l'Odéon. Bonjour.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de la neige, je sais qu'il y a eu des cas tout à fait difficiles à vivre. Pour commencer, j'ai recommandé hier un livre disque consacré à Claude Nougaro, coédité par l'INA, par France Inter, et il faut signaler que le disque qu'on peut entendre, c'est un disque MP3, donc il faut un ordinateur pour l'entendre. De même d'ailleurs que les radioscopies de Jacques Chancel qui viendra nous rendre visite lundi, et pourquoi ? Parce que c'est un de ceux qui ont fait le plus pour la musique classique, à travers le Grand Échiquier notamment. Ben c'est pareil, c'est du MP3, hein, ce n'est pas un disque CD, et là il y en a deux d'ailleurs dans le coffret consacré à Jacques. Alors la neige, oui, je sais qu'il y en a vraiment qui ont eu beaucoup de mal à rentrer chez eux, qui ne sont pas rentrés d'ailleurs, quelquefois qui sont restés au bureau pour dormir, dans leur voiture. Enfin chez nous ça a été assez catastrophique en Ile-de-France, nous avons été un peu des galériens, et en Russie on a par contre complètement l'habitude, et la neige est un sujet d'inspiration parfois, comme dans Casse-Noisette de Tchaïkovski, où il y a une délicieuse valse des flocons de neige.